Bonjour à tous, je suis Julien de Radio Campus Tour et bienvenue dans ce nouveau reportage qui va traiter du commerce de proximité. C'est un reportage réalisé à Tours donc, mais ces commerçants ne sont pas seulement le reflet de notre métropole tourangelle. Ces femmes, ces hommes que j'ai pu rencontrer pour réaliser ce reportage, ce sont surtout des commerçants s'adaptant sans cesse pendant cette période compliquée, avec leurs doutes évidemment, leurs craintes, mais surtout leurs espoirs et leurs sourires dissimulés, mais non cachés, derrière leurs masques. Ce sont aussi des citoyens, comme vous et moi, qui ont décidé de donner un peu de leur temps, un peu de leur énergie, pour soutenir les commerçants de proximité, les restaurants, les bars, la salle de sport, les centres-villes auxquels ils tiennent tous tant. Car oui, je ne vais pas vous l'apprendre, nous sommes de nouveau confinés depuis le 30 octobre. Mais dans l'annonce de ce reconfinement, j'ai cru apercevoir comme une lueur d'espoir, comme une petite lumière sortant de la bouche de notre cher président de la République. Et cet espoir, c'était le click and collect. Les commerçants peuvent donc, via le click and collect, vendre des biens via internet et les faire livrer, ou bien les donner à leurs propriétaires devant leur boutique. C'est un système qui m'a intrigué, je me suis demandé si les commerçants arriveraient à le mettre en place, si oui comment, et si cela leur permettrait de poursuivre leur activité pendant ce confinement. Et plus globalement, je voulais voir comment nos chers commerçants se mobilisaient pour maintenir une activité en temps de reconfinement. Et pour cela, les commerçants français, répartis dans leurs 436 000 boutiques sur notre territoire, ont un allié de taille. Et cet allié, ce sont les 67 millions de Français. Et l'un d'eux, c'est Vincent Péchon. Il est vidéaste à Tours, il a décidé de mettre son savoir-faire au service des commerçants d'Indre-et-Loire. Comment ça t'est venu déjà à la base l'idée de faire cette vidéo ?
C'était au lendemain du confinement, de l'annonce du reconfinement en fait. Je me suis dit bon bah voilà, moi j'ai pris le truc de manière très fataliste. Et derrière je me suis dit que les commerçants allaient être encore plus impactés, sachant qu'on arrive aux fêtes de fin d'année, que c'est là où principalement tous les commerçants font leurs plus gros chiffres, que ce soit des cartes cadeaux, que ce soit des achats de des cadeaux de Noël ou autre. Enfin, c'est une période importante pour eux et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour le coup. Et j'ai appelé donc des amis commerçants, j'en avais deux, trois, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai proposé cette idée de vidéo, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que t'en penses d'une vidéo où on réunit tous les commerçants, ou du moins une sélection de commerçants pour pouvoir passer un message fort qui est de favoriser la consommation locale et d'éviter les grandes surfaces, les géants du e-commerce, qui, eux, monopolisent énormément et se gavent en fait de manière folle sur le confinement, puisque tout le monde achète en ligne. Donc l'idée a plu, on m'a filé quelques contacts. Ensuite, j'ai rejoint le groupe qu'Alban Cossard a créé sur le soutien des commerçants pendant le confinement, qui est un groupe Facebook qui réunit maintenant plus de 2000 personnes. Et en fait, dès le lundi, donc ça c'est lundi de la semaine dernière, même pendant le week-end, en fait, j'ai commencé à parler de ce projet à des politiques, à des médias, en disant, est-ce que j'ai votre soutien, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes dispo. Au début, je voulais avoir des sphères d'influence avec des personnalités importantes qui ne sont pas dans le milieu politique. Et en fait, je me suis dit que ça servait, que ces personnes-là ne répondaient pas, en fait, ne réagissaient pas vraiment, ne voyaient pas trop ce que je voulais faire. Donc tant pis. Je me suis dit, je passe à autre chose. Et donc, j'ai contacté les politiques pour me mettre en relation avec des gens. J'ai contacté la presse, j'ai contacté d'autres commerçants et j'ai fait ce fameux post sur les réseaux, sur le groupe de Facebook du soutien aux commerçants pendant le confinement. J'ai eu à peu près 70 likes et énormément de commentaires de gens intéressés, dont des gens qui n'avaient pas compris que je faisais un truc de soutien. Ils pensaient que je voulais bosser gratuitement pour tout le monde. Donc ça m'a fait un peu rire. Je vois que même quand on propose du gratuit, forcément il y a des vautours qui arrivent à tout moment. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et donc du coup je suis rentré en contact individuellement avec tous les commerçants qui étaient intéressés. J'en ai réussi à en réunir une bonne vingtaine. Ensuite j'ai France Bleu Touraine qui m'a rejoint et qui eux ont fait des annonces en fait à la radio, plus des articles dès le vendredi. Pour inciter les commerçants à venir me rejoindre. Et au final, je suis monté à 31 commerçants. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je suis chroniqueur sur l'émission Tilt de TV Tour. Donc, j'avais déjà pas mal de réseaux sur TV Tour qui m'ont soutenu à 100% sur ce projet. D'ailleurs, la vidéo que j'ai réalisée va passer en mode campagne de sensibilisation sur la chaîne TV Tour 3-4 fois par jour, et ce, pendant je ne sais combien de temps, histoire que le
OK.
message rentre. Donc ça, je trouve ça vraiment trop, trop cool. Et ça fait effectivement extrêmement plaisir. Donc je suis vraiment content de voir ça. Et France Bleu qui font des articles, la NR aussi. Donc je suis très content. La semaine prochaine, j'ai France Bleu National qui m'appelle pour une interview radio. Donc c'est cool ça aussi. Ça montre qu'il y a un intérêt et que voilà, j'ai des gens de Boulogne-Billancourt qui m'appellent pour pouvoir reprendre mon initiative et la faire pareil sur Paris. Donc je suis content de, si vraiment ça peut inciter les gens à faire la même chose dans leur ville, bah, je serai vraiment très content. Et en fait, tout s'est fait de manière très tendue, c'est-à-dire que j'avais les commerçants au téléphone toute la journée pour essayer de caler des rendez-vous, des gens qui s'ajoutaient au dernier moment, donc il fallait que je rebouge mes plannings, que je m'adapte et tout. Enfin, ils ont été extrêmement réactifs là-dessus. Donc, on a beau dire qu'ils sont nuls en technologie, qu'ils sont à la ramasse, au final, ils ont été réactifs et ils ont su s'adapter quand même à mes contraintes. J'ai commencé le tournage le vendredi, du coup, vendredi, samedi, dimanche matin, donc ça m'a fait 2 jours et demi, à peu près 25-30 heures de tournage. Et puis j'ai attaqué le montage à partir de dimanche après-midi jusqu'à lundi 3 h du matin parce que je voulais que ça parte absolument le lundi. Et lundi, donc le matin, j'ai envoyé à la CCI, j'ai envoyé à la CMA, j'ai envoyé à toutes les personnes qui m'avaient soutenu et qui voulaient partager ce projet-là. Et donc ensuite, j'ai envoyé tout ça, j'ai commencé à partager de mon côté. Et du coup, bah, en fait, ça a pris de manière très folle. J'ai pas du tout contrôlé le truc. Là, actuellement, tu vois, on est le mercredi 11. Sur la vidéo que j'ai postée, j'ai 2300 partages, un peu plus de 680 likes. Et la vidéo a été vue quasiment plus de 56 000 fois. Donc, ce n'est pas des chiffres pour me gargariser, c'est simplement pour me rendre, juste montrer qu'il y a un intérêt en fait. Il y a cette initiative solidaire, citoyenne, elle sensibilise, elle touche tout le monde. Et tout le monde en fait est extrêmement acteur. On a beau dire que quand on a des mauvaises nouvelles, etc., ça se partage très vite, mais je pense que là, les bonnes nouvelles aussi peuvent se partager extrêmement vite, peuvent faire le buzz, la preuve en est. Et je suis vraiment content de voir qu'il y a une solidarité qui se crée entre les Tourangeaux pour cette vidéo.
Ta vidéo, quand tu l'as faite, l'objectif c'était un peu de sensibiliser les gens, donc avec ces chiffres, tu as l'impression que ça a fonctionné.
Ouais, en fait, je voulais vraiment que les gens se disent, les commerçants ont mis des solutions en place pour vous. Ils sont là pour vous. Ils sont ouverts pour favoriser un click and collect et une livraison à domicile. Donc, s'il vous plaît, vu qu'ils font des efforts, essayons de les soutenir un maximum. Au lieu de dépenser 10 euros pour acheter 3 articles sur Amazon, et ben dépensons 10 euros pour acheter un seul article, mais à tour, par un créateur local. Effectivement, ça coûtera plus cher, mais on favorise l'économie locale, on favorise les commerces de proximité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une prise de conscience où il faut consommer moins, mais mieux. Donc ça rentre totalement aussi avec mon éthique personnelle, avec mes convictions et avec celles des commerçants qui sont de pouvoir justement aider les gens qui font la vie en fait de notre ville.
Et aider les gens qui font la vie de notre ville, c'est aussi le souhait de Jean-Philippe Simon. Lui, son support, ce n'est pas la vidéo, mais c'est les réseaux sociaux. Il a donc créé une page qui a pour but de recenser les différents commerçants proposant du click and collect à Tours et ses alentours.
Ça faisait une bonne semaine que j'y pensais. Et
D'accord.
puis, étant habitué à manger dans les restaurants, pas souvent, mais de temps en temps, avec ma conjointe, samedi soir, ma conjointe voulait se faire un restaurant, mais forcément, on ne pouvait pas. Et puis, elle avait une pub sur Facebook de Mamie Bigoud qui faisait emporter. Je ne pensais pas qu'une crêperie pouvait faire emporter à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage. C'est qu'on ne sait pas quel restaurant ou même quel magasin de jouets, quel magasin de vêtements propose actuellement du click and collect. Parce qu'il ne peut plus vendre en recevant ses clients, quoi. Et je me suis posé la question là, je me suis dit comment on pourrait faire? Je dis, tiens, pourquoi pas lancer un groupe? Et puis on verra ce que ça va donner à l'issue, si les gens sont prenables du groupe ou pas, quoi.
Et donc aujourd'hui, le groupe a été créé. Il y a combien de personnes à peu près sur ce groupe?
Je dois être à quasiment 400 là pour le moment.
Donc en une semaine, c'est quand même un chiffre assez important, comme quoi les gens sont assez intéressés.
Même pas une semaine, 4 jours.
En moins que ça, donc ça va assez vite. Il y a
Oui,
combien
pour.
de. Combien y a-t-il de commerçants, de restaurants qui sont répertoriés sur votre page?
Beaucoup parce que il n'y a pas forcément le commerçant qui va partager pour son commerce. Il y a aussi les personnes qui vont aller, comme là, moi, midi, j'étais chercher un Pokéball à Tour Centre. bah, j'ai partagé ce que j'ai commandé et en même temps, ça leur fait de la pub. Donc, il n'y a pas que les commerçants qui font la pub, c'est tout le monde peut faire la pub pour tout le monde, justement. C'est une espèce d'entraide à la population qui ont un petit commerce et qui essaient de résister avec ce qui se passe en ce moment, quoi.
Donc, ça s'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut aller y poster plus ou moins, j'allais dire, une publicité. C'est pas vraiment une publicité, mais en tous les cas, un message pour montrer l'ouverture d'un commerce.
Tout à fait.
Donc, il y en a un certain nombre sur ce groupe, il y a de plus en plus de personnes. C'est quelque chose d'inédit, votre page, ou est-ce que vous êtes inspiré d'autres pages sur Tours? Comment
Alors
ça s'est
non,
fait?
pas. Non, par contre, quand j'ai fait un peu de pub sur les groupes justement d'entraide, il y a de quelques personnes qui m'ont dit, bah tiens, c'est un groupe qui ressemble à. Alors, je sais plus le nom, aide les entreprises surtout, quelque chose comme ça que je connaissais pas. Donc non,
D'accord.
à l'origine, c'est venu de moi-même. C'est moi qui dis ça sous le nom vraiment de Click and Collect. C'était vraiment pas pour aider l'entreprise de toutes les entreprises sur Tours. Non, c'était vraiment dans l'idée, moi, c'était ceux qui les entreprises, magasins de vêtements, qui sont obligés de se mettre au Click and Collect et pour leur faire connaître. Parce que quelqu'un, il y en a, ils vont pas avoir les moyens de se créer un site internet comme les grandes entreprises, style Auchan et compagnie, je veux dire. Leur Facebook, c'est leur seul moyen. Et pour se reconnaître sur Facebook, c'est quand même, ça peut être facile comme ça peut être dur. Donc, je me suis dit, tiens, si en faisant ça, ça pourrait justement leur aider, de leur donner un petit coup de pouce, quoi.
Et voilà, leur permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. On l'a dit, il y a beaucoup de commerçants qui sont répertoriés sur votre page. Vous pensez que ça va vraiment leur donner un coup de pouce de façon concrète?
J'espère en tout cas pour eux, je ne peux pas l'affirmer. Maintenant, j'ai beaucoup de monde qui vient me revoir m'en remerciant pour ce que je fais pour eux. Quand c'est le propriétaire entre guillemets du magasin qui me contacte, ou des fois c'est des personnes qui m'ont merci pour eux. Moi-même, je vais inviter un maximum de monde de mes amis sur Facebook pour qu'ils se rajoutent et qu'eux-mêmes fassent de la pub. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment collectif, que ce soit les restaurateurs, les commerçants ou les personnes qui viennent justement pour savoir chez qui on peut commander, quoi. Il y a beaucoup de monde qui partage cette page-là, qui sont contents de ce que j'ai mis en place. Et je pense que ça rassure d'un certain point les commerçants et ça leur fait du bien. Juste après avoir été à Mamie Bigou chercher notre repas samedi soir, la personne, c'était ma femme qui s'était déplacée, la personne lui a dit justement, bon, on fait un test sur 2 semaines, puis on verra si on reste ou pas. Et je me suis dit, mais non, il faut qu'ils restent, mais faut pour qu'il faut qu'ils puissent rester, faut les faire connaître, il faut leur faire de la pub, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai agi comme ça. Et c'est eux les mêmes les premiers, quand ils ont vu les AVC, ils sont venus vers moi, ils m'ont remercié. Je pense que ça les rassure d'un point, et ce qui va leur donner l'envie de continuer, je pense. Si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas forcément, ils vont pas perdurer pour perdre du chiffre non plus, quoi.
Que ça fonctionne, c'est l'objectif de chacun et c'est la réalité de Joël Afkin. Il est le directeur de la librairie Tourangelle, la boîte à livres. Depuis le début du reconfinement et l'annonce de la mise en place de leur click and collect, leur téléphone n'arrête pas de sonner, comme vous pourrez l'entendre dans cette interview.
Je suis Joël Afkin, le gérant de la librairie La Boîte à Livres à Tours. Nous sommes une grande librairie générale, nous faisons presque 1000 mètres carrés. C'est une équipe de 32 personnes. Voilà, nous avons presque une vingtaine de libraires qui sont au conseil des clients, voilà, à la présentation des livres, des nouveaux livres, mais aussi d'un fonds important. Voilà. Nous avons aussi des rencontres chaque semaine, hors Covid, bien sûr. Nous avons deux auteurs par semaine en rencontre le soir. Et puis des dédicaces, et puis nous avons des expositions, et puis des animations dans le rayon jeunesse, qui est un rayon assez important. Voilà, enfin, il se passe des choses à tous les rayons, si je puis dire, pas forcément tous les jours, mais en même temps, le public aussi qui fait vivre la librairie est là constamment pour demander conseil, que ce soit au rayon universitaire, puisque Tours est une ville universitaire assez importante, donc nous avons une demande assez forte en universitaire et donc en jeunesse, en littérature, littérature étrangère, bien sûr, polar. On a un rayon BD très important qui s'est vraiment développé, mais je pense que c'est valable aussi dans d'autres librairies. Le rayon le roman graphique s'est vraiment développé ces dernières années.
Vous avez donc fermé après le premier confinement, mais il me semble qu'à la fin de ce premier confinement, vous avez pu réouvrir.
Alors oui, on est resté fermé un mois. Et puis on a ouvert le second mois, justement, pour faire ce qu'on fait actuellement, les commandes en ligne sur notre site, et puis les commandes par téléphone. Et les gens soit demandent à recevoir la commande chez eux, par la poste, ou bien viennent les retirer, comme vous avez vu tout à l'heure, à la porte. Voilà.
Le retrait des commandes, ce système de click and collect, donc, est une bonne solution. Il y a du monde qui vient à la boîte à livres pour récupérer justement des ouvrages. C'est quelque chose qui vous a permis de subsister pendant cette période compliquée.
Ce qui était important, c'est en fait, on a fermé deux mois en tout. Ce qui était important, c'est de garder la lumière dans la librairie, qu'il y ait un fil comme ça, que les gens puissent rester en contact avec nous. Et c'est ça qui était important. Ça n'a pas été forcément ce qu'on a fait qui a été très porteur, mais en tout cas, on a gardé un fil et on était en lien. Et puis, il y avait un relais de gens de la librairie qui étaient là pour recevoir les gens, pour traiter les commandes, pour envoyer, recevoir les commandes Internet, etc. C'était assez... Et puis, on était ouvert de 16h à 18h tous les jours. Cette fois-ci, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout l'impression que les gens sont confinés chez eux, puisque on sait qu'il y a à peu près 18 millions d'élèves qui vont à l'école, les gens travaillent, ils ne sont pas qu'en télétravail, donc ça bouge beaucoup plus quand même dans la rue, si je puis dire, et on a beaucoup plus de commandes Internet. Aussi pourquoi ? Parce que la première fois, la chaîne du livre était fermée. On ne pouvait pas commander les livres. Donc, de ce fait, forcément, la demande était restreinte, même si on avait un stock important et qu'on pouvait répondre à la demande. Mais cette fois-ci, la chaîne du livre n'a pas fermé, et tant mieux, bien sûr. Donc, il y a forcément plus de commandes. Parce que les gens savent que même s'ils vont sur notre site, qu'ils ne trouvent pas le livre, ils peuvent le commander et à nous faire le travail de commande, pour qu'ils puissent avoir leurs livres dans des temps rapides.
Comment avez-vous vécu cette période un petit peu particulière entre ces fameux deux confinements ?
Écoutez...
Vous avez retrouvé les clients, j'imagine ?
Bien sûr. Donc je vous disais, pendant un mois, on a été fermé, plus rien ne bougeait, enfin presque. Voilà. Le deuxième mois, on a ouvert aux clients, il y a eu un échange. Et puis à partir du 11 mai, évidemment, il y a eu un besoin... du public, de retrouver un lien avec les livres très, très fervent, très, très important. Donc on a vécu des mois, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, des mois vraiment très positifs. Et puis tout s'est arrêté, je crois, le 5 novembre. Je ne sais plus si c'est le 3 ou le 5, enfin bon, peu importe. Tout s'est arrêté, mais dès le lendemain, on a repris le flambeau. Enfin, pour continuer par le biais de notre site, par les commandes par téléphone, par les gens qui viennent chercher leurs commandes, enfin, etc., etc. Parce qu'il y avait tous les gens aussi qui avaient commandé des livres avant le confinement, avant le mois de novembre, et donc qui viennent chercher leurs commandes. Voilà.
J'ai l'impression, d'un point de vue extérieur à tout ce milieu du livre, que c'est un milieu un petit peu à part, que les gens ont une forte attache à toutes ces librairies comme vous, indépendantes, situées dans les centres-villes, et qu'il y a une sorte d'engouement général, d'engouement de toute la population autour de ces librairies, et que les gens ont envie de les voir ouvertes et de pouvoir participer à leur maintien en activité. Est-ce que vous avez ressenti cet engouement populaire ?
Oui, bien sûr. Le livre, c'est la culture. Le livre, c'est comprendre, enfin lire, comprendre, rêver, etc., etc. Donc les gens ont absolument besoin de cet objet-là, livre. Ils ont un lien aussi, non seulement avec la librairie, mais évidemment avec les auteurs qui leur suggèrent comme ça des sujets à réflexion, des romans pour rêver ou pour réfléchir, etc., etc. Et les enfants aussi. Donc, y a absolument ce besoin. Et là où je trouve que ça a été un vrai problème, c'est que tout d'un coup, la librairie soit arrêtée dans son élan, que les gens ne puissent pas venir, même par rendez-vous dans la librairie. Sans livre, sans culture, sans spectacle, comment est-ce qu'on peut tout d'un coup s'arrêter et ne plus avoir accès à la réflexion ? C'est très dangereux, je trouve ça très dangereux.
Juste avant cette interview, j'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter avec une dame qui attendait devant votre boutique pour récupérer un livre en click and collect, et elle m'a confié que pendant le premier confinement, effectivement, elle voulait accéder aux livres, et du coup elle a acheté certains livres dans des grandes surfaces, dans des supermarchés, en allant faire ses courses. Maintenant ce n'est plus possible, est-ce que pour vous c'est une bonne chose que ces supermarchés aient fermé ce genre de rayon ?
Bah oui, oui, je veux dire, c'est plus égalitaire, tout comme le ministère des Finances la semaine dernière a décidé avec un comité de libraires, hein, etc., de payer la différence, de faire le même prix pour le port, 0,01, donc 1 centime pour le port, et le ministère des Finances s'engage à payer pendant le confinement la différence du port. C'est-à-dire que ça peut être 8 euros, 11 euros hein, le port, si, suivant le poids. Bon. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on l'a vu lundi, on avait 750 commandes. On n'a jamais eu ça. Le premier confinement, on avait 200 commandes. Mais voilà. Donc évidemment, si on voit que le port n'est pas payant pratiquement, ça incite plus à commander des livres aussi. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose aussi que les grandes surfaces de livres, les grandes surfaces qui vendent aussi du livre, ont été stoppées. Sinon, c'est totalement déloyal, et ça a été déloyal pendant le premier confinement. Je trouve que, bon, il y a des solutions, il ne faut pas non plus tout jeter, mais il y a des solutions, mais je trouve que ça n'a pas été assez préparé pour que justement les lecteurs, on va dire, puissent rester vraiment en contact, je trouve, hormis la librairie, où on achète des livres, les bibliothèques, où à partir d'un abonnement dérisoire, on peut emprunter des livres, les bibliothèques sont fermées quasiment au public. Donc je trouve ça vraiment dommage que les gens qui n'aient pas les moyens de s'acheter des livres de façon récurrente, ne puissent pas aller en bibliothèque chercher des livres. Ça, c'est dommage.
On l'a vu avec le dernier confinement, avec celui-ci aussi, les gens se sont de plus en plus tournés vers Internet pour acheter des choses. C'était évidemment une tendance qui existait déjà depuis des années, mais les choses semblent s'accélérer aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est une crainte de voir les gens consommer de plus en plus sur Internet et de voir l'accélération, l'augmentation de ces chiffres de fréquentation de ces sites sur Internet ?
Non, vous savez, c'est une crainte au début. C'est une crainte quand, un grand mammouth de la distribution du livre, qui en plus ne paye pas ses impôts en France, alors que nous, si on ne paye pas nos impôts, etc., etc., c'est toujours une crainte. Mais après, il faut s'adapter. Je pense qu'on passe notre vie à s'adapter. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, les sites, l'informatique, etc. Il faut s'adapter. On a un site, voilà, on s'est adapté. En ayant un site, on reçoit quotidiennement, même quand la librairie est ouverte, c'est plus facile pour des gens de commander à partir de l'informatique. Donc, on s'adapte. Évidemment, on n'a pas, on n'a pas justement, en temps normal, cet apport de proposer le port du livre gratuit. Là, il y a quelque chose qui est totalement, déréglé, quoi. Pourquoi est-ce que certains de la très grande distribution peuvent avoir ce privilège de proposer un centime et nous, on demande 11 euros. Donc forcément, ça crée une différence tout de suite, quoi. Et ça, il faudrait vraiment que on nous a prôné un grand ministère de la culture, je l'attends. Pour l'instant, je ne le vois pas, puisque c'est depuis des mois, pour la culture en général, c'est une hécatombe totale. Mais j'aimerais bien que le ministère de la culture, justement, en profite de toutes ces expériences qu'on vit en ce moment pour revoir un peu les lois au niveau, ne serait-ce que du port du livre.
On l'a compris, chez vous, à la boîte à livres de Tours, le click and collect, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Vous pratiquiez déjà avant, à plus petite échelle. Maintenant, ça repose sur l'intégralité de vos actions. Mais pour pas trop longtemps, on l'espère pour vous, la réouverture prochaine de ce lieu. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe dans tous les commerces. Est-ce que vous pensez que la façon de consommer des Français, est-ce que la façon de consommer des ménages va évoluer avec ce genre de système?
Il y a deux sens. Oui, bien sûr, elle évolue. Elle a déjà pris une direction d'évolution. Les gens commandent de plus en plus le fromage, le beurre, le livre et plein de produits à partir d'une application sans sortir de chez eux ou dans la rue, d'ailleurs, avec le portable, etc. Et en même temps, il y a cette richesse du petit commerce qui fait que, justement, je disais, on a presque une vingtaine de libraires, les gens viennent pour être aussi conseillés. Ils ne viennent pas juste chercher un titre. Des gens rentrent pour chercher un livre et ressortent avec trois livres. Parce qu'il y a eu un conseil, parce qu'il y a eu des découvertes, parce que vous n'avez pas la même fonction quand vous surfez sur le net. J'en suis sûr. Vous n'avez pas la même fonction. Et puis, il y a cette fonction qu'on ne peut pas remplacer, c'est cette fonction humaine, c'est-à-dire d'échange avec quand on cherche quelque chose, un produit ou une idée, ou d'avoir un contact d'échange, ou même avec le produit. Le produit, on ne le voit pas de la même façon, alors que sur le net, c'est une image, on clique, on fait tourner la chaussure dans deux sens, et puis hop, on choisit la couleur, la taille, etc. Donc il y a quelque chose qui... Je pense que si la première solution de commander en ligne était la bonne, elle aurait alors absolument fait disparaître totalement les centres-villes. Ça n'est pas ça. Bon, le danger, c'est qu'en ce moment, il y a plein de petits commerçants, plein de petites librairies aussi, qui sont prêtes à mettre la clé sous la porte, parce que nous sommes une grande librairie, nous avons un stock suffisant aussi pour répondre à la demande, que ce soit par click and collect, enfin, etc. Mais des petites librairies, ils n'ont pas cette réponse-là. S'ils ont, disons, 5000 références, mais ça ne suffit pas pour répondre, même au niveau d'une région, au niveau de... Voilà, donc ils se font manger, forcément. Et j'ai entendu que certaines librairies qui font le click and collect ferment, parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande. Ce n'est pas possible. Il faut aussi avoir... une trésorerie, un stock qui soit possible aussi à la demande.
Vous nous l'avez dit, certaines librairies sont en grande difficulté, certaines vont même mettre la clé sous la porte. Vous avez un système de click and collect qui fonctionne très bien, comme on a pu le voir devant cette boutique. Est-ce que ce système a permis économiquement de maintenir vos activités à flot et de permettre de garder tous vos salariés, de ne pas avoir une perte sèche?
Oui, bien sûr, bien sûr. Si... on avait décidé de fermer comme la première fois. Alors, ça pourrait être aller vers une catastrophe. Là, il y a une équipe formidable qui tient le choc, enfin qui a envie d'aller vers des propositions différentes. Donc, on se relaie, on est une quinzaine tous les jours. C'est ce qui fait qu'on ne perd pas tout. On a, disons qu'on fait... un tiers trois quarts de notre chiffre d'affaires à la journée. Donc on ne perd pas tout. Parce que perdre tout ou faire juste un cinquième, c'est mettre en cause aussi les emplois, et la véracité de l'entreprise, etc. On ne peut pas faire ça. Donc on réinvente. Alors tout à l'heure quand je disais... moi, je n'aimerais pas faire ce métier-là tout le temps, c'est-à-dire courir dans tous les sens pour trouver des titres, prendre des paquets, les donner, etc. C'est un peu dur pour tout le monde, mais tout le monde y va, tout le monde le fait. Bon. Mais il ne faudrait pas que ça dure, quoi, des mois. Il ne faudrait pas qu'on nous confine pendant 6 mois, parce que je pense que là, il y aurait ou une révolution ou on craquerait. Voilà.
pour la fin de cette interview, je vous laisse transmettre le message que vous souhaitez. Il me semble que vous voulez nous transmettre un message d'espoir, que ce soit pour les commerçants, mais aussi pour les différents consommateurs français.
Continuez, en fait. Continuez à partir quand même d'une expérience qui dure depuis 1946. La librairie va avoir 75 ans l'année prochaine. Ça a été une personne au départ, et puis deux, puis trois, puis cinq, puis sept. Et puis, il n'y avait pas d'informatique, puis l'informatique est arrivée. Enfin, il y a eu toute une évolution structurelle, humaine, etc., dans les temps. Donc, ce n'est pas avec un mois de confinement qu'on va se laisser ensevelir. Non, au contraire, il faut prendre cette librairie ici. Elle existe parce que il y a ma compagne et moi, on a pris des risques, des devants, des envies, des rêves. Au départ, on s'est installé ici en 1998. On est en 2020, donc on peut pas sous prétexte de un méchant microbe qui court dans le monde entier qui nous ferait chuter. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Donc on continue.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Vous venez d'entendre le cas d'un commerçant de centre-ville avec un nom bien connu des Tourangeaux. Et maintenant, nous allons parler d'un autre secteur, et c'est celui du sport. Car ils sont, dans ce secteur du sport, dans une situation intermédiaire très difficile. Vous allez l'entendre à travers le récit de Laila Farah, professeur de yoga à Tours. Est-ce que pendant le premier confinement, comme à l'image de celui-là, tu avais mis en place des cours à distance ?
Alors ouais, on a de toute façon le monde du yoga, d'une manière générale, a très très vite réagi au confinement. Moi, lorsque le confinement français est arrivé, j'étais encore en Inde. J'étais en train de finir une formation, un stage, etc. Et donc je suis arrivée début avril, un peu déboussolée parce qu'il y avait un confinement d'une autre nature en Inde. Et j'ai mis quelques jours à atterrir aussi bien physiquement que mentalement, et puis je m'y suis très vite mise en fait. Ma structure, elle était assez naissante. Je commençais tout juste à donner des cours depuis septembre de l'année précédente. Et là, du coup, ce confinement-là, tout premier confinement qui était un confinement assez radical, où tout le monde devait un peu arrêter la vie, j'ai vite eu la demande de mes élèves, du peu d'élèves que je commençais à avoir, pour continuer à avoir une routine ensemble et à se soutenir ensemble. Donc ça, c'était le premier confinement et c'était les expériences avec Zoom, la plateforme par laquelle on fait l'interview, et cette plateforme-là qui nous a permis d'assurer la continuité.
Et donc, une fois que le confinement s'est terminé, tu as arrêté les cours en visioconférence, comme ça, via Zoom, ou est-ce que tu as arrêté complètement, c'est ça?
Oui, j'ai arrêté complètement. Alors, d'une part, parce qu'on avait hâte de se retrouver en ligne, et en présentiel.
Oui, en vrai, oui.
Mais aussi parce que je le constatais chez l'ensemble de mes élèves qu'il y avait une sorte de ras-le-bol parce qu'on est confiné, mais confiné surtout derrière un écran, que ce soit pour faire son travail, faire ses études, s'occuper des enfants, faire ses loisirs. Et au bout d'un moment, même si ça a été une solution quand même super pour pouvoir se retrouver d'une certaine façon, c'est comme faire des apéros par Zoom, ça coupe toute spontanéité, ça, c'est pas ça la vie sociale et c'est pas ça le collectif. Et donc à un moment il y avait quand même, j'ai continué à le faire jusqu'au bout, mais je sentais que mes élèves s'essoufflaient et ils étaient tellement heureux de retrouver la possibilité de se retrouver ensemble. J'avais pas mal d'élèves qui venaient d'ailleurs, d'autres villes, même d'autres pays. Et toutes ces personnes-là aussi sont retournées dans leurs habitudes, ont essayé de retrouver des habitudes collectives réelles. Et donc, voilà, on avait très vite quitté les plateformes Internet.
Pour toi, ça a été pour toi, le deuxième confinement, pardon. Tout s'est mis en place assez rapidement, j'imagine, parce qu'en fait, il y avait déjà l'habitude de ce premier confinement. Et finalement, ouais. Il n'y a pas eu une rupture comme on a pu voir avec ce premier confinement où tout le monde était vraiment déboussolé. Là, il y a eu une continuité, en fait, qui s'est mise en place.
Oui, en fait, les gens savaient que ça allait arriver parce qu'on voyait chez nos consoeurs et mon frère partout ailleurs en France que enfin, ça se sentait gros comme une maison, ça allait nous tomber dessus. Pour exemple, Paris a été, et en tout cas le monde du yoga a été confiné de cette manière en France à partir de, on va dire, 3 semaines avant que nous, les Tourangeaux, nous soyons confinés. Donc, on savait que ça allait arriver, on a vite repris nos abonnements Zoom. Moi, dans les dernières semaines avant que ce confinement réel n'arrive, on en parlait beaucoup avec les élèves de cette perspective-là. Et puis, on s'est donc très vite adapté quand la nouvelle est tombée. Pas forcément avec joie, hein, évidemment. Même si on était préparé, on n'avait pas envie de retourner dans cette relation Internet.
Ouais.
Par Internet.
Et pour toi, économiquement, sans rentrer dans les détails des chiffres, c'est pas ça qui nous intéresse, mais est-ce que c'est très difficile le confinement ? Est-ce que la solution de faire des cours à distance, ça permet quand même de survivre, de subvenir quand même à ses besoins ? Comment ça se passe ?
Ben, moi, je fonctionne pas mal par abonnement ou carte de cours. Donc, quelque part, moi, les cours, ils ont été, pour certains d'entre eux, ils ont été payés, mais... En fait, c'est dur depuis l'entre-confinement, c'est-à-dire depuis juin-juillet. Les gens n'y reviennent pas trop parce que certaines personnes qui étaient déjà un peu hypochondriaques le sont devenues d'autant plus avec le coronavirus et le traitement médiatique qui en a découlé. Ensuite, les gens ont mis du temps à se remettre dans leurs habitudes. Et quand le spectre d'un reconfinement est arrivé, les gens ne savaient plus trop s'ils devaient s'abonner, pas s'abonner. Donc déjà, ça avait beaucoup ébranlé nos bases. Et il faut savoir que depuis le mois de juin, on était contraints, dans toutes les salles où je travaille, c'est le cas, hein, l'espace Yoga Shala, le studio Naitika, c'est pareil, on devait recevoir moins de monde pour garantir une circulation respectable qui respecte les consignes sanitaires. Donc, ça nous a contraints à diviser par deux le nombre d'élèves que nous pouvions recevoir. Donc, très souvent, moi, j'ai été obligée de refuser des élèves parce que j'ai une toute petite jauge et donc, ils ne pouvaient pas rentrer dans mes créneaux horaires. Ce sont des endroits où je n'ai pas non plus... toute l'attitude parce que plusieurs personnes interviennent et donc voilà, donc ça a été un gros impact sur nos économies, mais depuis le premier confinement. Et le deuxième, les gens jouent le jeu, ils continuent, mais ils sont quand même pas fans de cette solution en ligne. C'est pas, on sait que ça va pas tenir très longtemps.
Ouais. Est-ce que tu as vu avec cette solution en ligne de nouvelles personnes arriver, ou est-ce que c'est plus le contraire, tu as perdu du monde avec le fait de passer en ligne forcément ? Est-ce qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là ?
Alors, pour l'instant, je ne pourrais pas dire. J'ai la plupart des élèves qui me suivent et c'est le cas pour ma consoeur Andrea qui a le studio Naitika. On a globalement réussi à maintenir un lien avec les élèves en leur expliquant que c'est bien, bien au-delà de nos volontés, mais qu'on s'est adapté très, très vite. Moi, je propose à mes élèves, en compensation de cette perte de qualité, qui est la qualité première, c'est quand même l'aspect collectif, le travail ensemble, l'ajustement de la prof. En compensation de ça, je leur propose d'assister à plus d'une séance, plus de ce que l'abonnement classique pourrait leur proposer. Donc, il y en a qui, la plupart, ils sont vraiment, ils nous soutiennent, ils comprennent aussi, parce qu'on a fait quand même pas mal de pédagogie, on leur a expliqué à quel point ça menaçait un peu nos économies et l'existence même de ce genre de cours collectifs. Et après, j'ai certaines personnes qui m'ont demandé de remplacer les cours collectifs par des cours perso, puisqu'il est encore autorisé de donner des cours personnels en présentiel.
D'accord.
J'ai une sorte de compensation, si vous voulez. J'ai peut-être une ou deux personnes qui ont fait le choix de ne pas suivre les cours en ligne parce que pour eux, c'est vraiment trop inconfortable ou c'est même pas possible techniquement. Et puis, en compensation, j'en ai d'autres qui m'engagent comme professeur particulière de yoga.
Ma dernière question, ça va être sur l'avenir. C'est un peu compliqué évidemment de se projeter maintenant, mais toi, comment tu le vois l'avenir ? Comment tu l'espères ? Comment tu l'imagines ?
J'espère que Amazon va se casser la gueule, que Jeff Bezos va disparaître de ce monde. Je ne sais pas. J'espère que les gens... on a un vrai virus, on est face à un cas, une situation particulière, mais je pense que ça a érigé aussi beaucoup de paranoïa, peu de solidarité. J'espère que les gens vont se réveiller, vont reconsidérer le mot solidarité, essayer un peu plus de se tendre la main, s'entraider. J'ai vu des beaux actes d'entraide hein, pendant ce deuxième confinement, même pendant le premier. J'espère que lors des prochains confinements, et croisons les doigts qu'il n'y ait pas des virus plus méchants, mais que les autorités vont comprendre que les activités, notamment les activités de bien-être ou les activités de tout petit commerce, c'est des repères essentiels pour les gens. C'est ma situation, je vis à Tours Centre, je travaille à Tours Centre, mais je vois même dans des endroits isolés que dans une zone périurbaine un petit peu isolée ou même à la campagne, qu'on puisse, je ne sais pas moi, aller participer à un cours collectif de yoga ou toute autre activité de bien-être qui permet d'être ensemble. Moi, je pense que c'est capital.
Vous êtes toujours dans ce reportage traitant de la situation actuelle des commerçants en France et plus particulièrement dans la ville de Tours grâce aux différents commerçants qui ont bien voulu répondre à mes questions. Vous venez d'entendre le témoignage d'une professeure de yoga et maintenant nous allons parler d'un tout autre type de commerçants, ce sont des artisans et plus particulièrement les artisans d'art. J'ai donc rencontré Catherine Azoulay qui est céramiste à Tours. Pour continuer son activité, elle a elle aussi mis en place un système de click and collect, mais vous l'aurez compris pour les artistes, ce qui est quelque chose d'assez inédit. Et ça fonctionne plutôt très bien. Je vous laisse écouter cette interview réalisée dans son atelier boutique. Est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes et ce que vous faites à Tours ?
Alors, je suis Catherine Azoulay, je suis céramiste, artisan d'art, et je suis installée au bord de la Loire, à Tours, depuis 3 ans. J'ai un atelier boutique où je présente également un collectif de créatrices qui s'appelle les Signatures du Quai Paul Bert.
Donc voilà, le Quai Paul Bert, c'est donc le quai situé à Tours, là où nous sommes. Ce que vous entendez, ce sont les voitures et non la Loire, malheureusement. Peut-être que vous les entendez en fond, mais en tous les cas, la Loire est juste à côté de nous, à quelques mètres à peine. Donc un très bel endroit, très bien situé ici. Donc vous avez votre boutique depuis quelques années maintenant, c'est ça ? On peut parler un petit peu de comment s'est passé le premier confinement. J'imagine que comme tout le monde, ça vous a un peu tombé dessus. Vous avez complètement cessé votre activité, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Évidemment, la boutique a dû fermer, les commerces. Et donc, j'ai continué à travailler, mais comme tout le monde, avec moins d'enthousiasme et moins de perspectives. Mais 15 jours avant la fin du confinement,
oui.
Il y a eu déjà à cette époque-là la possibilité de créer des click and collect. C'était assez peu diffusé, mais ça a été possible 15 jours avant. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé le click and collect de mon atelier, qu'on a appelé l'embarcadère avec les créatrices qui sont présentes. Et donc, ça fait depuis 6 mois que ce click and collect fonctionne.
D'accord. Donc, ce click and collect est resté en place dans cette période transitoire entre le premier et le deuxième confinement, c'est ça ?
Voilà. Et en fait, je l'ai mis en place avec l'idée que c'était un moyen différent de vendre des créations. Parce qu'il y a aussi les articles qu'on trouve dans ma boutique, mais il y a tout ce qu'on trouve sur la plateforme et qu'on peut venir récupérer le samedi à l'atelier.
Et donc, comment vous l'avez vécu, cette période un peu particulière entre le premier et le deuxième confinement ? Vous l'avez dit, vous avez laissé en place ce système de click and collect. J'imagine que vous avez rouvert votre boutique, vous avez retrouvé les clients. Est-ce que ça a été la même chose qu'avant le confinement, que les années précédentes ? Est-ce qu'il y a eu moins de monde qui est venu vous voir ? Comment ça s'est passé, cette période ?
Alors, l'affluence... Alors, moi, je suis une boutique particulière. Hein. C'est un atelier boutique, donc déjà, c'est une clientèle assez particulière. Mais de mon expérience, et puis pour avoir discuté avec beaucoup d'autres commerçants, c'est vraiment... La fréquentation dépend vraiment de l'atmosphère générale. Et quand ça va mal, les gens ne viennent pas, ne se déplacent pas. Et donc, ça suit vraiment l'actualité et le moral général.
Donc, ça a été un peu compliqué, cette période, pour vous ?
Alors, à titre personnel, j'ai eu la chance d'avoir des commandes de boutique, donc je n'ai pas souffert des conséquences de la crise grâce à des belles commandes que j'ai reçues depuis le début de cette période.
D'accord, donc ça c'est une bonne chose pour vous.
Oui.
Le confinement s'est donc réinstallé, le deuxième confinement, vous aviez déjà ce système de click and collect en place, donc tout de suite ça s'est réactivé.
Alors ça s'est réactivé, mais surtout, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à mettre en place Et j'avais en tête le modèle des AMAP, où en fait les producteurs ont réussi à se regrouper et à créer un mode de rapport avec les clients directs, qui était adapté évidemment à leurs produits. Nous, on ne vend pas de l'alimentation, donc il faut l'imaginer autrement. Mais l'idée de regrouper plusieurs artisans et de créer un autre moyen qui est alternatif au salon ou aux boutiques classiques, je trouvais qu'il y avait quelque chose à creuser. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait, par exemple, ouvrir notre drive, notre click and collect, à d'autres artisans d'art, tous ces artisans qui sont privés de salon en raison du contexte. Et à partir de là, s'est créé le réseau de points relais art et artisanat d'art. Donc il y a une quinzaine de boutiques qui se sont joints à l'initiative. Et donc l'idée, c'est en fait d'ouvrir le jour de permanence du click and collect à des artisans qui vendent sur leur propre plateforme. Donc c'est une sorte de drive collectif et solidaire.
Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Il me semble qu'il y a une quinzaine de points relais qui existent aujourd'hui.
Voilà, alors ça fait à peu près 2 semaines, donc je n'ai pas encore le recul, je n'ai pas encore tous les retours des autres points relais. J'ai l'expérience de mon propre point relais. Mon propre site fonctionne assez bien. Et j'ai aussi reçu des commandes d'artisans que je ne connaissais pas qui se sont joints à mon point relais. Et j'ai livré les 2 derniers samedis des commandes donc, de ces artisans. Donc je suis très contente pour l'instant.
Vous êtes très contente et j'imagine que ces artisans sont aussi très contents d'avoir trouvé ce système pour permettre de continuer à avoir des rentrées financières évidemment, mais surtout pouvoir continuer à diffuser de l'art, à diffuser des créations pendant ce confinement.
Bah c'est ça, ça crée... Alors c'est un petit soutien, hein, on ne va pas dire que je croule sous les commandes non plus, mais c'est un petit soutien qui fait aussi que ça crée une petite émulation parce que c'est des regroupements et les salons c'est aussi ça, c'est des regroupements d'artistes et d'artisans qui se rencontrent aussi entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui manque aussi. Et donc, à travers ce point relais, c'est aussi une occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de leur offrir la possibilité de continuer à vendre, à maintenir leur activité. Et donc, voilà.
Ouais, donc, c'est une bonne chose. J'imagine que ça permet aussi de garder, alors même si c'est évidemment masqué à distance, etc., de garder un lien avec des clients que vous avez. J'imagine qu'il y a des clients assez récurrents que vous retrouvez aussi. J'imagine qu'il y a cette joie pour ces clients de garder ce lien et de pouvoir continuer de pouvoir accéder à tout ce que vous fabriquez ici.
Oui, c'est ça. On a quand même des fidèles, aussi des gens qui sont fidèles au marché de Noël, le marché d'artisans, etc., et qui continuent à acheter sur nos sites. Il y avait l'exigence de répondre à ce contexte particulier, cette difficulté des fermetures, etc. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur le long terme, au-delà de la crise en elle-même, parce que c'est un moyen d'accéder directement aux gens qui sont des amoureux de l'artisanat d'art et à d'autres. Pour nous retrouver, c'est ce qu'on appelle le circuit court, et de se retrouver physiquement dans un lieu et d'accueillir un groupe d'artisans, c'est donner un repère physique, une existence physique dans la ville à ces regroupements, et ça permet un accès plus direct et plus humain. Évidemment, c'est beaucoup mieux d'aller voir directement les objets, les choses, de les toucher. Mais le fait de pouvoir s'adresser à une boutique physique pour avoir l'historique d'un objet, d'un artiste ou d'un artisan, c'est autre chose.
Évidemment. Vous en avez parlé en discutant tout à l'heure. Vous m'avez dit que donc vous avez parlé des marchés de Noël. Vous faites des marchés de Noël de temps en temps.
Alors oui, je participe à des marchés de Noël, à des salons d'artisanat d'art. Et évidemment, tous ces événements-là...
Voilà, c'est ça. La perspective est un peu compliquée là-dessus. Je crois que la plupart des marchés de Noël sont déjà annulés. Peut-être qu'il en reste quelques-uns, mais ça me semble assez compliqué en cette fin d'année.
Là, je ne peux pas vous dire, mais évidemment, il y a beaucoup de... Il y a la quasi-totalité qui a été annulée. Et pour certains, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils travaillent... L'essentiel de leurs ressources viennent de ces marchés-là.
Évidemment. On voit un espoir, on commence à avoir un espoir, le gouvernement ne communique pas trop là-dessus, mais peut-être que certaines boutiques pourraient rouvrir dès le 1er décembre, donc c'est dans quelques jours maintenant, dans quelques semaines. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour vous? Vous avez bon espoir en cela?
Ah oui, je crois que là, on a quand même des signes assez encourageants, et oui, j'espère que ça arrivera, et puis évidemment, j'espère que le contexte sera meilleur.
Et vous, l'avenir, comment vous le voyez? Je sais que c'est une question compliquée. Vous n'avez pas de boule de cristal, malheureusement, pour pouvoir vous en rendre compte. Mais l'avenir à court, moyen terme, comment vous le voyez?
Non, je crois qu'il y a de belles perspectives pour l'artisanat d'art, à la condition, en effet, de trouver des voies de commercialisation qui lui sont propres, parce qu'il y a un amour pour le fait main, pour le local. Et donc l'artisanat d'art aujourd'hui connaît un succès certain.
Évidemment. On parle beaucoup en ce moment, on parle le débat, tout ce qui est transmis par les médias, le débat dans la sphère même privée. On parle beaucoup des librairies, on parle beaucoup du monde du spectacle, de ce monde de la culture. Mais le monde de l'artisanat d'art, c'est quelque chose qu'on entend très peu, alors que vous êtes évidemment énormément touché, aussi fort que les autres, par cette crise. Comment vous le vivez, cette situation ?
Alors, le problème de l'artisanat d'art, c'est que ça recouvre des réalités qui sont extrêmement différentes. Dans les artisans d'art, il y a des personnes comme moi qui le font à temps plein. Moi, j'ai une situation privilégiée parce que j'ai un lieu de vente, bon, qui est aujourd'hui fermé, mais c'est quand même un atout. Le fait que je puisse directement présenter mon travail aux gens, c'est évidemment une situation privilégiée. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça à temps partiel, qui ont un travail à côté. Il y a des réalités qui sont extrêmement différentes. Comme je vous disais, il y a des gens qui ne travaillent que sur des salons. Il y a des gens qui travaillent que avec des boutiques, avec des revendeurs. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de parler au nom des artisans d'art, parce qu'il y a beaucoup de réalités derrière ce métier-là. Eh bien, moi, alors je ne sais pas si j'ai un message à transmettre, mais moi, en tout cas, l'espoir, je le vois dans le collectif, en fait. Et je crois qu'une des solutions, quel que soit le problème, il se trouve dans le collectif et dans les solutions qu'on résout à plusieurs.
Nous approchons de la fin de ce reportage. Et pour finir, je vous propose d'écouter le reportage de Sarah Devenne, qui vend des vêtements via son site internet 1001 Sarah et qui se déplace régulièrement chez ses clientes pour leur présenter ses différents vêtements. Vous l'avez compris, la vente sur internet, ça la connaît, mais cette situation est loin de l'effrayer.
Donc est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment ça se passe d'habitude, ton fonctionnement ?
Alors d'habitude, alors moi ça change pas trop du confinement en fait, mis à part que je ne peux plus recevoir mes clients donc du coup à domicile. Sinon, moi j'ai un site en ligne où je livre en France, en Belgique et au Luxembourg.
D'accord.
Donc j'ai mes clientes qui font leurs commandes donc via le site 1001sarah.com et j'envoie aux clientes du coup un peu partout. Après je fais du drive, du coup mes clientes à proximité commandent sur mon site et choisissent le retrait drive et viennent le chercher donc du coup à mon domicile. Et voilà, du coup, je ne peux plus faire d'essayage. Donc, je ne reçois plus mes clientes pour les conseiller, pour qu'elles essayent et qu'on partage un moment convivial. Ça, pour le moment, c'est plus possible.
Donc, vous êtes donc toujours ouvert, évidemment, en ligne. On peut commander des commandes. Est-ce que c'est compliqué J'imagine que c'est compliqué de vendre des vêtements sur Internet.
Bah, compliqué, non, parce que, enfin, au début, si, mais après, on se fait son réseau et les clientes habituelles savent comment ça taille, savent d'où ça vient, donc généralement, elles n'hésitent pas à recommander. Après, elles parlent de moi aux alentours et du coup, j'ai de nouvelles clientes. Et c'est vrai que moi, là, en ce moment, ce qui me bloque, c'est bah, du coup, les clientes qui venaient à domicile et ça, c'est plus gênant puisque, bah oui, en effet, je pouvais les conseiller, elles pouvaient essayer et du coup, elles pouvaient repartir avec plus d'articles que si elles auraient commandé en ligne, en fait.
Évidemment.
Donc voilà.
Donc, pour toi, l'adaptation au Covid, le confinement a changé ta façon de travailler, mais à la
place
que tu supportes ton site internet, c'est quelque chose que tu sais faire, travailler à distance.
Voilà. Déjà, de base, je travaillais à distance. Là, c'est juste, du coup, mon showroom qui a fermé. Après, j'ai mes clientes qui venaient quand même à domicile, qui continuent d'acheter. J'ai allongé le retour des articles qui n'allaient pas, du coup. Et elles peuvent échanger, du coup, si jamais l'article ne convient pas.
Évidemment. Donc, toi, j'imagine que comme tout le monde, tu es impacté par cette crise du Covid. Le fait de plus pouvoir te rendre chez tes clientes habituelles, ça représente une perte significative ?
Bah oui, oui, parce que je suis Sours-Savonnières, en fait, c'est vraiment une petite commune et c'est vrai que j'avais entre 3 et 4 clientes par jour à domicile. Donc ouais, c'est faut faire plus de ventes du coup pour rattraper tout ce chiffre perdu du coup du domicile sur Internet.
Toi, comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu es assez sereine? Est-ce que tu as bon espoir? Est-ce que tu as un peu peur? Comment tu le vois cet avenir?
J'ai bon espoir parce que j'ai l'espoir d'ouvrir ma boutique physique sur Tours aux proximités parce que justement je recevais beaucoup de clientes à domicile et c'était plus trop gérable. C'est quand même mon lieu de vie. Donc du coup voilà, j'espère, je suis positive et j'espère pouvoir ouvrir ma boutique physique dans les prochains mois si le virus me le permet.
Ce que j'allais dire, ouais, ouvrir une boutique
Voilà.
en physique dans ces périodes compliquées, c'est une perspective qui semble assez compliquée comme ça.
C'est ça, c'était l'objectif avant qu'on soit confiné. J'étais sur plusieurs projets et c'est vrai que tout est tombé à l'eau du coup. Et j'ai vraiment le but sur l'année 2021 d'ouvrir ma boutique voilà, physique en espérant que je puisse réaliser, on va dire, ce rêve. Pour que je puisse accueillir mes clientes dans les bonnes circonstances et que ce virus nous fiche un peu la paix.
Tu ne fais pas partie des personnes qui ont peur de se lancer, qui ont peur d'investir avec cette crise. Au contraire, tu gardes bon espoir et tu te dis, faut y
Oui.
aller. Et...
C'est ça, ouais. Ouais. Sinon, si je suis négative, j'arrête tout. Et franchement, c'est pas le but. J'ai mis du temps à créer ce que je voulais et moi, je me dis que c'est pas le virus qui va m'arrêter aujourd'hui. J'ai toujours gardé espoir parce que moi, j'ai ouvert. En fait, j'ai vraiment pas de chance. J'ai ouvert une semaine avant le premier confinement. Donc, du coup, j'ai été impactée par le premier confinement. Et là, j'allais ouvrir ma boutique. Enfin, j'avais le projet d'ouvrir ma boutique. Et du coup, je suis impactée par le deuxième confinement.
Ouais.
Donc, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu de chance. Et ça a vraiment été une année assez compliquée. Mais bon, après, j'ai des personnes qui me soutiennent. Et je me dis que c'est le principal. Si on nous pousse vers le haut, il n'y a pas de raison qu'on se plante. Moi, je voudrais juste dire à tous les petits commerçants qui sont comme moi, que ce soit en ligne ou en physique, de jamais, enfin, de pas lâcher, de persévérer. Et je pense qu'à un moment donné, de toute façon, la roue tourne et on y arrivera malgré ce virus. Et il faut pas baisser les bras, il faut continuer et toujours croire en ses rêves. Voilà, c'est le petit message que je dirais pour toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui de cette crise sanitaire.
Et c'est un très beau message d'espoir pour conclure ce reportage. Et l'espoir que nous a communiqué Sarah, je l'ai globalement ressenti chez l'ensemble des commerçants que j'ai pu rencontrer. Car effectivement, durant la réalisation de ce reportage, j'ai senti des commerçants plus motivés que déprimés, des consommateurs plutôt acteurs et responsables pour la survie de leur commerce de proximité, plutôt que des personnes agacées et résignées face à cette situation. Tous ces commerces tiennent du fond du cœur à leur boutique et à leur activité, et ce n'est pas une crise comme celle-là qui leur fera baisser les bras. Au contraire, ils étaient plus motivés que jamais et espèrent de tout cœur la réouverture de leur boutique pour retrouver, cette fois-ci à l'intérieur, leur si chère clientèle. Je tiens donc à remercier Leïla Farah, Catherine Azoulay, Sarah Deven, Vincent Péchon, Jean-Philippe Simon et Joël Afkin qui ont bien voulu m'accorder un peu de leur temps pour vous partager leur expérience. Je tiens aussi à remercier Radio Campus Tours pour qui je réalise ce reportage. Je souhaite à tous ces commerçants le meilleur en espérant les retrouver au plus tôt dans leur boutique.